Bienvenue dans Le Débat, regard croisé. Quand un pays s'apprête à récupérer son atout le plus précieux, après un siècle de contrôle étranger, on s'attend tous à une célébration unie.
C'est clair, une immense fête nationale.
Mais au lieu de ça, l'élection présidentielle panaméenne de 99, ça ressemblait plus à une séance de spiritisme.
Ouais, avec les fantômes du passé qui s'affrontent.
Exactement. D'un côté, on a Mireya Moscoso, la veuve du président renversé en 68, et de l'autre, Martín Torrijos, le fils du général putschiste. La question aujourd'hui est simple. Est-ce que la victoire de Moscoso est la véritable guérison d'une blessure vieille de 30 ans, comme je le crois fermement?
Ou alors, est-ce que c'est pas plutôt une victoire de façade? Parce que personnellement, je suis convaincue que sous cette énorme charge symbolique, l'élection masquait une paralysie structurelle totale.
Regardons la dynamique du vote avant de dire ça. On a eu une participation massive, enfin bien au-delà d'un scrutin ordinaire. C'était un vrai référendum sur l'âme du pays.
L'enjeu était historique.
La nation a choisi consciemment une civile, une ancienne exilée, pour signer l'acte de rétrocession du canal. C'est le mandat populaire indiscutable d'un peuple qui veut tourner la page de la corruption technocratique de l'ère Pérez Valladares.
Alors la symbolique est très forte, d'accord. Mais on ne gouverne pas un pays uniquement avec des symboles. Regardez bien la mécanique du pouvoir. Ce duel des fantômes, comme on disait, il a surtout verrouillé le pays.
Verrouillé ? Je ne dirais pas ça.
Ah si, totalement. Vous oubliez l'ingénieur Alberto Valarino. C'est un troisième candidat qui vient du secteur des affaires et qui a capté une part super significative des voix.
Ouais, c'est vrai. Un peu plus de 17%.
Ce qui prouve bien qu'une grande partie des Panaméens en avait marre de cette polarisation d'un autre temps. Et surtout, la victoire de Moscoso est une illusion absolue en termes de pouvoir.
Une illusion. Elle gagne la présidence quand même.
Oui, elle gagne le bureau, certes. Mais sa coalition se retrouve en minorité écrasante à l'Assemblée, face au Cantorijos. En fait, c'est comme gagner les clés d'une voiture neuve et découvrir que l'équipe adverse a démonté le moteur.
Attendez. En vous focalisant juste sur ce blocage parlementaire, vous ignorez complètement ce qui s'est passé le soir même de l'élection.
C'est-à-dire ?
Vous parlez de la concession.
Bah oui, Torrijos a reconnu sa défaite presque immédiatement. Faut se rappeler que Washington était terrifié à l'idée d'avoir des émeutes autour de la zone de transit du canal.
Oui, les Américains craignaient une instabilité majeure, c'est sûr. Exactement. Et pourtant, le pays a fait bloc dans le calme. Ça, c'est la preuve définitive que le Panama avait mûri politiquement, qu'on avait enfin surmonté la violence de 68.
Pas exactement, non. Si Torrijos a concédé si vite, c'est surtout parce que sa propre coalition était au bord de l'implosion.
Ah, vous pensez que c'était juste un calcul interne ?
Absolument. Il essayait de jouer sur deux tableaux. D'un côté, séduire les investisseurs urbains, et de l'autre, réveiller la fibre nationaliste de la vieille garde. Sauf que le bilan du gouvernement sortant avait déjà complètement fracturé les syndicats.
Donc il était coincé sur le plan social ?
Voilà. Il cède vite parce qu'il est coincé de l'intérieur et, disons-le, parce que Moscoso l'a littéralement étouffé sur le terrain avec une stratégie redoutable.
Ah, sa stratégie politique, elle est fascinante. Ses adversaires l'avaient qualifié de ménagère incompétente.
Oui, une attaque d'ailleurs très misogyne.
Tout ça parce qu'elle servait le café aux politiciens pendant son exil à Miami ?
Eh bien, elle a transformé cette insulte en une arme psychologique foudroyante.
C'est très vrai, la manœuvre était brillante.
Elle s'est posée en mère de la nation. Une figure profondément humaine, très accessible, face à des technocrates froids en costume.
Oui, elle a joué de cette image à la perfection.
Mais il faut comprendre le mécanisme profond derrière. Pourquoi ce discours a autant marché en dehors de la capitale ?
Dans les provinces, vous voulez dire ?
Exactement. Elle a très bien compris que récupérer la souveraineté du canal, ça ne signifiait absolument rien pour un agriculteur du Darién ou de Bocas del Toro.
Bien sûr, si les revenus ne suivent pas.
C'est ça. Si l'argent des péages reste bloqué dans les gratte-ciels bancaires de Panama City, le paysan n'y gagne rien. Du coup, elle instrumentalise la géographie contre l'histoire en promettant une redistribution massive des richesses.
Ce qui lui assurait une base solide.
Oui, mais le problème, c'est que la réalité la rattrape direct. Sans majorité parlementaire, ses promesses économiques et sociales immenses, elles étaient tout simplement intenables.
Je comprends votre point, mais je maintiens quand même que confier à la première femme présidente le soin de hisser le drapeau panaméen sur l'administration du canal, c'était une catharsis indispensable.
Sur le plan purement symbolique, je vous rejoins.
C'était vraiment la résolution politique et morale dont le pays avait besoin pour tourner la page du XXe siècle.
Le chapitre militaire a été clos, oui, et la souveraineté territoriale actée, c'est indéniable.
Merci.
Mais une fois les célébrations terminées et les klaxons éteints, la fracture à l'Assemblée a prouvé que le grand défi de l'unité nationale restait entier. La gouvernabilité n'était juste pas là.
C'est souvent le paradoxe des grandes transitions démocratiques, non?
C'est vrai, l'histoire n'est jamais simple.
Elle solde les comptes du passé, mais rend le présent incroyablement complexe. L'élection du 2 mai 1999 a permis au Panama de conjurer une blessure historique majeure.
Tout à fait.
Mais comme on vient de le voir ensemble, fermer un livre d'histoire ne suffit pas toujours à faire adopter un budget. À vous d'en tirer vos propres conclusions.